Le testament d'un excentrique, deuxième partie, chapitre 11. La prison du Missouri. C'était le 6 juin, à Mammoth Hotel, après les 6 jours passés aux grottes du Kentucky, que Lissiwag avait reçu la nouvelle fatale. Le point de 7 par 4 et 3, doublé, l'envoyait dans la 52e case, Missouri. Le voyage ne serait ni fatigant ni long. Les deux États confinent à l'angle de Cairo. De Mammoth Caves à Saint-Louis, à peine 250 miles. 8 à 10 heures de chemin de fer, pas davantage. Mais quel désappointement! Quelle ruine! Malheur! Malheur! S'écria Jovita Foley. Mieux aurait valu d'être envoyé, comme le Commodore Hurricane, à l'extrémité de la Floride, ou comme M. Kimball au fond du Washington. Au moins n'aurions-nous pas cessé de prendre part à cette abominable partie.
Oui, abominable, c'est le mot, ma pauvre Jovita, répondit Lissiwag.
Aussi, pourquoi as-tu voulu la jouer?
La désolée demoiselle ne répondit pas. Et qu'aurait-elle essayé de répondre? Voulut-elle même ne point abandonner le match, se rendre au Missouri, attendre que l'un des partenaires vînt, par un coup malheureux pour lui mais heureux pour elle, délivrer Lissiwag de la prison en y prenant sa place? Elle ne l'aurait pu qu'à la condition de verser une triple prime dans cette cagnotte dont le montant devait appartenir au second arrivant. Et ces 3 000 $, les possédait-elle? Non. Et pourrait-elle se les procurer? Pas davantage.
En effet, seuls quelques gros parieurs engagés sur Lissiwag auraient peut-être fait l'avance de cette prime. Et encore, si les chances du pavillon jaune n'eussent pas été si gravement compromises. Lorsque Odjewikan tira le numéro de la mort, il en fut quitte à recommencer. Herman Tidbury lui-même, le jour fixé, sortirait de l'hôtellerie de la Louisiane et reprendrait son tour. Ni l'un ni l'autre, en somme, n'était exclu du match pour un temps illimité. Tandis que cette pauvre Lissiwag...
Malheur, malheur, répétait Jovita Foley, qui n'avait plus que ce mot funeste à la bouche.
Eh bien, que faisons-nous? Demanda sa compagne.
Attendons, attendons, ma pauvre chérie.
Attendons, quoi?
Je ne sais pas. D'ailleurs, nous avons 15 jours pour nous rendre à la prison.
Mais non, pour payer la prime, Jovita, et c'est cela qui nous embarrasse le plus.
Oui, Lissi, oui. Enfin, attendons.
Ici?
Non, par exemple.
Et ce non sorti du cœur de Jovita Foley répondait bien au changement des dispositions manifestées jusqu'alors à la 5e partenaire par les hôtes de Mammoth Hotel. En effet, Lissiwag se voyait déjà délaissée depuis ce déplorable coup de dé. Favorite de la veille, elle n'était plus la favorite du lendemain. Les parieurs, les coureurs de boum qui avaient ponté sur elle, l'auraient volontiers couverte de malédictions. En prison, la malheureuse irait en prison, et la partie serait certainement achevée avant qu'elle eût été délivrée. Aussi, dès la première heure, le vide se fit-il autour d'elle. C'est ce que Jovita Foley avait parfaitement vu, et comme cela était humain, n'est-il pas vrai? Bref, dès ce jour, repartirent la plupart des touristes, puis le gouverneur de l'Illinois. Et il est bien probable que John Hamilton regrettait à cette heure les grades honorifiques qu'il avait accordés aux deux amis. Il suit de là que le colonel Wag et le lieutenant-colonel Foley ne feraient plus que triste figure au milieu de la milice illinoise. Le jour même, l'après-midi, elles réglèrent leurs notes à Mammoth Hotel et prirent le train pour Louisville, afin d'y attendre... Quoi?
Ma chère Jovita, dit alors Lissiwag au moment de descendre du train.
Sais-tu ce qu'il y aurait à faire?
Non, Lissi, je n'ai plus la tête à moi. Je suis toute désorientée.
Eh bien,
il y aurait à continuer le voyage jusqu'à Chicago, à rentrer tranquillement chez nous et à reprendre nos fonctions dans les magasins de M. Marshall Field. Est-ce que ce ne serait pas sage ?
Très sage, ma chérie, très sage. Mais c'est plus fort que moi. J'aimerais mieux devenir sourde que d'écouter la voix de la sagesse.
C'est de la folie.
Soit, je suis folle. Je le suis depuis que cette partie a commencé. Et je veux l'être jusqu'à la fin.
Va, c'est fini pour nous, Jovita.
Bien fini.
On ne sait pas. Et je donnerai 10 ans de ma vie pour être d'un mois plus vieille.
Et elle les donnait, et elle les avait donnés tant de fois, ces 10 ans, que tout compte fait, cela faisait 130 années de son existence déjà sacrifiée en pure perte.
Jovita Follet conservait-elle donc encore quelque espoir?
Dans tous les cas, elle obtint de Lissy Wag, qui eut la faiblesse de l'écouter, qu'elle n'abandonnerait pas la partie. Toutes deux passeraient quelques jours à Louisville. N'avait-elle pas du 6 au 20 juin pour se rendre au Missouri?
Ce fut donc dans un modeste hôtel de Louisville qu'elles allèrent enfouir leur chagrin. Du moins, Jovita Follet, car sa compagne s'était facilement résignée, n'ayant jamais cru au succès final. Le 7, le 8, le 9 s'écoulèrent. La situation ne s'était point modifiée, et telles furent les insistances de Lissy Wag qu'elle fit consentir Jovita Follet à regagner Chicago. D'ailleurs, les journaux, même le Chicago Herald, qui avait toujours soutenu la cinquième partenaire, la lâchaient maintenant. C'était en enrageant que Jovita Follet les lisait, puis les déchirait d'une main, pour ne pas dire d'une griffe fiévreuse. Lissy Wag ne comptait plus dans les agences où sa cote était tombée à 0 et même au-dessous. Dans la matinée du 8, les deux amis avaient appris que le Commodore E-Weekend avait amené 9 par 6 et 3, ce qui lui faisait atteindre d'un bond le Visconsin, 26e case.
« Le voilà bien reparti !» s'était écriée la malheureuse Jovita Follet.
Et le 10, lorsque le télégraphe annonça que l'homme masqué était, par 5 points, envoyé au Minnesota, 51e case,
« Décidément, c'est celui-là qui a le plus de chance, » dit-elle, « et ce sera lui qui héritera des millions de cette hyperbone. »
On voit que l'excentrique défunt avait singulièrement baissé dans son estime depuis que les dés avaient fait une prisonnière de sa chère Lissy Wag. Enfin, il avait été convenu que le soir même, les deux amis prendraient le train pour Chicago. Bien que les journaux de Louisville eussent fait connaître dans quel hôtel Lissy Wag et Jovita Follet étaient descendus, inutile de dire que pas un seul reporter n'était venu leur rendre visite. Si ce fut à la grande satisfaction de l'une, ce fut à l'extrême dépit de l'autre, puisque, répétait-elle en serrant les dents, c'est comme si nous n'existions pas. Mais il était écrit qu'elle ne partirait pas encore pour la métropole illinoise. Une circonstance des moins prévues allait leur permettre de peut-être retrouver une partie de leur chance en rentrant dans le match, que, faute de payer la prime, elle devait abandonner. Vers 3 heures de l'après-midi, le facteur du quartier se présenta à l'hôtel, monta à la chambre des deux amis. Dès que la porte lui eut été ouverte, « Mademoiselle Lissy Wag ? » demanda-t-il.
« C'est moi, » répondit la jeune fille. « J'ai une lettre chargée à votre adresse, et si vous voulez signer la réception ?»«
Donnez ?» répondit Jovita Follet, dont le cœur battait à se briser. Les formalités remplies, le facteur se retira.
« Qu'y a-t-il dans cette lettre ?» dit Lissy Wag.
« De l'argent, Lissy.
Et qui peut nous en envoyer ?»
« Qui ?» répliqua Jovita Follet. Elle rompit les cachets de l'enveloppe et en tira une lettre qui renfermait un papier plié. La lettre ne contenait que ces lignes. « S'y inclut un chèque de $3 000 sur la banque de Louisville et que Miss Lissy Wag voudra bien accepter pour payer sa prime, de la part de Humphrey Weldon. » La joie de Jovita Follet éclata comme une pièce d'artifice. Elle sautait, elle riait à étouffer, elle faisait bouffer ses jupes en tournant et elle répétait « le chèque de 3 000 $, c'est ce digne monsieur qui est venu nous voir pendant que tu étais malade, mon chéri, c'est de monsieur Weldon. »
« Mais, fit observer Lissy Wag, je ne sais pas si je peux, si je dois accepter.
Si tu le peux, si tu le dois, ne vois-tu pas que monsieur Weldon a parlé de grosses sommes sur toi? Il nous l'a dit, d'ailleurs, et il veut que tu puisses continuer la partie. Tiens, malgré son âge respectable, je l'épouserai s'il voulait de moi. Allons toucher le chèque. » Et elles allèrent toucher le chèque, qui leur fut payé à l'instant même. Quant à remercier ce digne, cet excellent, ce respectable Humphrey Weldon, impossible, puisqu'on ne connaissait pas son adresse. Le soir même, Lissy Wag et Jovita Follet quittaient Louisville, sans avoir rien dit à personne de la lettre si opportunément reçue, et le lendemain, 11, elles débarquaient à Saint-Louis. Certes, à bien réfléchir, la situation de Lissy Wag dans le match était toujours compromise, puisqu'elle ne pourrait pas prendre part au tirage tant que l'un des partenaires ne l'aurait pas remplacée à la 52e case. Mais cela ne manquerait pas d'arriver, à en croire cette si confiante, cette trop confiante Jovita Follet. Et dans tous les cas, Lissy Wag ne serait pas exclue de la partie pour cause de primes impayées. Toutes deux étaient donc dans cet état du Missouri, auquel aucun des 7 ne songeait jamais sans en éprouver les affres de l'épouvante. Aussi, on l'admettra volontiers, pas un de ces 2 700 000 habitants n'était-il flatté de ce que William J. Hyperbone se fût permis d'en faire une prison pour son noble jeu des États-Unis d'Amérique. Il est vrai, sans parler des gens de couleur, les Allemands y sont en grande majorité, et l'on sait ce que vaut la susceptibilité teutonne. Le Missouri est l'un des plus importants États de la République américaine, le 17e par la superficie, le 5e par sa population, le 1er pour la production du zinc. Limité par des lignes de longitude et de latitude au sud et à l'ouest, il a, du côté de l'est et du nord, le Mississippi et le Missouri, dont les eaux se confondent en amont de Saint-Louis, à l'angle où s'élève la petite ville de Columbia. On imagine aisément à quel point ces deux routes fluviales doivent favoriser le commerce de la métropole. Expédition de blé et de farine, exportation du chanvre, qui est cultivé en grand, élevage des porcs et des bêtes à cornes. Les métaux ne lui manquent pas, ni les gisements de plomb et de zinc. C'est dans le comté de Washington que se dressent les Iron Mountains, la montagne de fer, et le Pilot Kewal, énorme masse haute de 300 pieds, que les Américains auront peut-être un jour l'idée de transformer en 2 électro-aimants d'une formidable puissance. L'État de Missouri n'était autrefois qu'un district de la Louisiane, mais il est rentré avec son autonomie dans l'Union depuis 1821, et la fondation de Saint-Louis par les Français date de 1764. En cet état, il n'y a pas moins de 11 villes à citer pour leur valeur commerciale ou industrielle, dont 3 possèdent plus de 100 000 habitants. L'une d'elles, Kansas, en face de Kansas City du Kansas, avait déjà été, on s'en souvient, visité par Max Real, quand, à son premier voyage, il descendit le Missouri depuis Omaha jusqu'à cette double ville. Mais il en est d'autres, telles Jefferson City, la capitale de l'État, qui mérite l'attention des touristes grâce à la pittoresque situation sur une terrasse dominant la vallée missourienne. Toutefois, le premier rang appartient sans conteste à Saint-Louis, qui occupe une étendue de 10 miles sur la rive droite du Grand Fleuve. Cette métropole fut appelée jadis Mount City, parce qu'elle est entourée d'une succession de monticules calcaires de couleur blanche. Elle occupe une aire supérieure d'un quart à celle de Paris. Et encore, conviendrait-il d'y ajouter ses annexes urbaines ? East Saint-Louis, Brooklyn, Cahokia, Prairie du Port, bien qu'elle s'élève sur le territoire illinois. Telle était la cité désignée par ce membre de l'excentrique club pour servir de prison aux joueurs du match. La cité entière s'entend. Il va de soi qu'il ne s'agissait pas d'être incarcéré entre les murs d'un cachot. Non, Lissy Wag n'aurait point à subir la promiscuité des malfaiteurs. Jovita Follet et elle ne seraient point privées de la liberté. Elles pourraient se promener à leur fantaisie à travers cette cité superbe où l'on compte 18 parcs publics et dont l'un ne mesure pas moins de 550 hectares. Les deux amies durent donc faire choix d'un hôtel. Et ce fut à Lincoln Hotel qu'elles vinrent occuper la même chambre dans l'après-midi du 11 juin. « Eh bien, nous y sommes dans cette horrible prison !» s'écria Jovita Follet. « Et j'avoue que, pour une horrible prison, Saint-Louis me paraît fort agréable. » « Une prison ne saurait l'être, Jovita, du moment qu'on n'a pas la permission d'en sortir. » « Sois tranquille, nous en sortirons, ma chérie !» Ainsi, toute sa confiance d'autrefois était revenue à Jovita Follet, en même temps que sa gaieté naturelle, depuis l'envoi des 3 000 $, dû à cet excellent monsieur Humphrey Weldon, lesquels furent expédiés le jour même en un chèque à l'ordre de maître Thornbrock, notaire à Chicago. Mais cette confiance, il ne semblait pas qu'elle fût revenue au monde des parieurs, aux courtiers des agences. En effet, bien que les journaux de Saint-Louis eussent signalé la présence de la cinquième partenaire à Lincoln Hotel, aucun intervieweur ne s'y présenta. Que pouvait-on attendre de Lissy Wag, qui avait eu cette malchance d'être tombée dans la case missourienne? Et cependant, peut-être cet emprisonnement finirait-il plus tôt qu'on ne l'imaginait. Le lendemain, 12, un nouveau tirage serait effectué et les suivants se succéderaient de 2 en 2 jours. Et qui sait? Qui sait? Qui sait? Répétait sans cesse Jovita Follet. Les deux amis employèrent donc les loisirs de l'après-midi à visiter quelques quartiers de la ville qu'un ravin, parallèle au cours du Mississippi, coupe en 2 parties inégales. Dans les magasins luxueux des principales rues, quel attrait pour des yeux féminins ! Non seulement de magnifiques bijoux et de superbes étoffes, mais des pelleteries, des fourrures de toute beauté. Et pourquoi s'en étonner, puisque ces précieuses robes sont fournies à profusion par les opossums, les daims, les renards, les rats musqués, les wolvérènes, les chats sauvages, dont les Indiens de ce territoire font un grand trafic. Et ne s'y rencontrent-ils pas encore par milliers ces bisons, ces buffles, qui fréquentent les vastes prairies en bordure des fleuves, et auxquels des bandes de loups donnent incessamment la chasse? Enfin, la journée ne fut pas perdue. Le lendemain, on comprend ce que devait être l'impatience de Jovita Follet, qui se réveilla dès l'aube, puisque ce jour-là, à 8 heures, maître Thornbrock allait procéder au tirage du 12 juin. Aussi, laissant dormir Lissy Wag, elle sortit de l'hôtel en quête d'informations. 2 heures. Oui, elle fut bien 2 heures absente. Et quel réveil pour la cinquième partenaire qui sursauta au bruit d'une porte violemment ouverte et à la retentissante entrée de Jovita Follet, criant « Délivrée, ma chère, délivrée !»« Que dis-tu ? 8 par 5 et 3 !» Il les a. Il? Et comme il était à la 44e case, le voilà expédié à la 52e. Qui, il? Et comme la 52e est la prison, il y vient prendre notre place. Mais qui? Max Réal, ma chère, Max Réal. Ah, le pauvre jeune homme, répondit Lissy Wag. J'aurais mieux aimé rester.
Par exemple !
S'écria la triomphante Jovita Follet, que cette observation fit bondir comme un isard.
Rien de plus exact. Ce coup de dé mettait en liberté Lissy Wag. Elle serait remplacée à Saint-Louis par Max Real, dont elle reprendrait la place à Richmond, État de Virginie, 750 miles, 25 à 30 heures de voyage. D'ailleurs, pour s'y rendre, elle avait, du 12 au 20, plus de temps qu'il n'en fallait. Ce qui n'empêcha point son impatiente compagne, incapable de contenir sa joie, de s'écrier « En route !»«
Non, Jovita, non !» répondit nettement Lissy Wag. « Je trouve convenable d'attendre ici Monsieur Max Real. Nous devons bien cela à cet infortuné jeune homme. »
Et Jovita Follet d'acquiescer à cette proposition, mais à la condition que le prisonnier ne tarderait pas plus de 3 jours à franchir le seuil de sa prison. Or, ce fut précisément dès le lendemain, 13, que Max Real descendit à la gare de Saint-Louis. Et il existait sans doute un mystérieux lien de suggestion entre le premier et la cinquième partenaire, puisque si celle-ci désirait ne pas partir avant que celui-là fût arrivé, celui-là voulait arriver avant que celle-ci fût partie. Pauvre Madame Real, en quel état devait être cette excellente mère à la pensée que son fils était si malencontreusement arrêté sur le chemin du succès? Il va de soi que Max Real savait par les journaux que Lissy Wag logeait à Lincoln Hotel. Dès qu'il s'y présenta, il fut reçu par les deux amis, tandis que Tommy attendait dans un hôtel voisin le retour de son maître. Lissy Wag, émue plus qu'elle n'aurait voulu le paraître, s'avança au-devant du jeune peintre. « Ah, monsieur Real, dit-elle, que nous vous plaignons !»«
Et du fond du cœur !» ajouta Jovita Follet, qui ne le plaignait pas le moins du monde, et dont les yeux ne parvenaient pas à exprimer la pitié.
« Mais non, Miss Wag, répondit Max Real, lorsqu'il eut repris haleine après une montée trop rapide. « Non, je ne suis pas à plaindre, ou du moins je ne veux pas l'être, puisque j'ai le bonheur de vous délivrer. »«
Et que vous avez raison !» déclara Jovita Follet, qui ne put retenir cette réponse aussi franche que désagréable.
« Excusez, Jovita, dit alors Lissy Wag. « Elle ne réfléchit pas assez, monsieur Real, et pour moi, croyez que j'éprouve un profond chagrin. »«
Sans doute, reprit Jovita Follet.
« D'ailleurs, ne vous désespérez pas, monsieur Real. Ce qui nous arrive peut aussi vous arriver. Certes, cela eût été bien préférable si d'autres que vous avaient été envoyés en prison. Ce Tom Webb, ce Commodore Hurricane, cet Herman Tidbury, nous eussions accueilli avec plus de plaisir leur visite que la vôtre. C'est-à-dire, je me comprends. Enfin, ils viendront peut-être vous délivrer.
C'est possible, Miss Follet, répliqua Max Real. Mais il ne faut pas trop y compter. Croyez au surplus que j'accepte ce contretemps avec grande philosophie. En ce qui concerne la partie, je n'ai jamais cru que je gagnerais.
« Ni moi, monsieur Real, se hâta de dire Lissy Wag.
« mais si !» affirma Jovita Follet.
« Du moins, je l'ai cru pour elle. »«
Et je l'espère encore, Miss Wag, » ajouta le jeune homme.
« Et moi, je veux l'espérer pour vous, monsieur Real, » répondit la jeune fille.
« Voyons, voyons !» reprit Jovita Follet. « Vous ne pouvez pas gagner tous les deux. »
« C'est impossible, en effet, » dit en riant Max Real. « Il ne peut y avoir qu'un gagnant. »«
Allons donc !» s'écria Jovita Follet, de plus en plus emballée.
« Si Lissy gagne, elle aura les millions. Et si vous arrivez second, vous aurez le produit des primes. »«
Comme tu arranges les choses, ma pauvre Jovita !» observa Lissy Wag.
« Attendons !» dit alors Max Real. Et laissons faire le sort. Puisse-t-il vous être favorable, Miss Wag ?
Et vraiment, il la trouvait de plus en plus charmante, cette jeune fille. Cela se voyait d'une façon trop claire. Et Jovita Follet, qui n'était point sotte assurément, de se dire en aparté « Tiens, tiens, et pourquoi pas ? Voilà ce qui simplifierait la situation, et il importerait peu que l'un atteignît le but plutôt que l'autre. » Ah, comme elle connaissait bien le cœur humain, et en particulier celui de son ami. Tous les trois se mirent à causer des péripéties du match, des incidents survenus au cours du voyage, des beautés naturelles qu'ils avaient pu admirer en allant d'un état à l'autre, les merveilles du parc national du Yellowstone, que Marc Sréal ne devait jamais oublier, les merveilles des grottes du Kentucky, dont Lissiwag et Jovita Follet conserveraient l'éternel souvenir. Puis elles racontèrent ce qui s'était produit à propos des $3,000. Sans le généreux envoi de M. Humphrey Weldom, fait dans les termes qui ne permettaient pas de le refuser, Lissiwag aurait dû se retirer de la partie. Et quel est ce M. Humphrey Weldom ? Demanda Max Réal un peu inquiet. Un excellent et digne vieillard qui s'intéressait à nous, répondit Jovita Follet. Comme parieur, sans doute, ajouta Lissiwag. Et en voilà un qui est bien sûr d'empocher ses paris, déclara Jovita Follet. Et ce que ne dit pas Max Réal, c'est que lui aussi avait eu la pensée de mettre cette somme à la disposition de la jeune prisonnière. Mais à quel titre eût-elle pu l'accepter? Enfin, cette journée et celle du lendemain, Max Réal et les deux amis les passèrent ensemble, en causerie, en promenade. Si Lissiwag se montrait extrêmement chagrine de cette mauvaise chance de Max Réal, celui-ci se montrait tout heureux que Lissiwag en eût profité. Et en effet, depuis 24 heures, un revirement s'était produit dans les agences en faveur de la cinquième partenaire. Aussi, les reporters devinrent assidûment à Lincoln Hotel afin d'interviewer Lissiwag, qui se refusait toujours à les recevoir, et les parieurs d'abandonner l'ancien favori pour la nouvelle favorite. Ce qui résultait de la situation actuelle de la partie, c'est que, même en revenant en Virginie à la 44e case abandonnée par Max Réal, Lissiwag ne serait plus devancé que par Tom Queb à la 47e et par XKZ à la 51e. « Et ce particulier aux initiales ?» demanda Jovita Follet. « Sait-on enfin qui il est ?»« On l'ignore, » répondit le jeune peintre, « et il demeure plus mystérieux que jamais. » Il va sans dire, n'est-il pas vrai, que Max Réal, Lissiwag et Jovita Follet ne s'entretinrent pas uniquement des choses du match hyperbone. Ils parlèrent de leur famille, de la jeune fille qui n'avait plus aucun parent, de Madame Réal, maintenant installée à Chicago, et qui serait heureuse de recevoir Miss Lissiwag, de Sheridan Street, qui n'était pas très loin de South Halsted Street, etc., etc. Toutefois, Jovita Follet cherchait sans cesse à ramener la conversation sur la partie engagée, sur les coups qui pouvaient encore se produire. « Enfin, dit-elle, peut-être qu'au prochain tirage, ma chérie, tu planteras le pavillon jaune sur la dernière case. »« Impossible, Miss Follet, c'est impossible, » déclara Max Réal. « Et pourquoi ?»« Parce que Miss Wag va prendre ma place à la 44e. »« Eh bien, Monsieur Réal. » »« Eh bien, le plus grand nombre que pourrait obtenir Miss Wag serait 10, qui, redoublé, soit 20 points, lui ferait dépasser la 63e case, et elle devrait rétrograder à la 62e. Et alors, impossibilité de gagner le coup suivant, puisque le point de 1 ne peut être amené par les dés. « Vous avez raison, Monsieur Réal, » répondit Lissiwag. « Donc, Jovita, il faudra te résigner à attendre. » « Mais, » reprit le jeune peintre, « il y a un autre coup qui pourrait être très mauvais pour Miss Wag. »« Lequel ? » ?»« Ce serait s'il aidait à mener le point de 8, puisqu'il la renverrait en prison.
« Ça, jamais !» s'écria Jovita Follet.
« Et cependant, répondit en souriant la jeune fille, j'aurais à mon tour le bonheur de délivrer Monsieur Réal. »
« Très sincèrement, Miss Wag, affirma le jeune homme, je ne le souhaite pas.
« Ni moi !» déclara la pétulante Jovita Follet. « Et alors, Monsieur Réal ?» demanda Lissy Wag. « Quel est le meilleur point que je doive désirer ?»«
Celui de 12, puisqu'il vous enverrait à la 56e case, l'état de l'Indiana, et non dans les lointaines régions du Far West. »«
Parfait !» déclara Jovita Follet. « Et au tirage suivant, nous pourrions arriver au but ?»
« Oui, avec le point de 7. »«
7 !» s'écria Jovita Follet en battant des mains. « 7 est la première des 7. »
« Dans tous les cas, ajouta Max Réal, vous n'avez point à redouter la 58e case, celle de Death Valley, où succomba le Commodore Hurricane, puisqu'il faudrait amener le point de 14, ce qui ne se peut. Et maintenant, je vous renouvelle, Miss Wag, les vœux très sincères que j'avais formés pour vous au début. Puissiez-vous être victorieuse, c'est ce que je souhaite le plus au monde. »
Lissy Wag ne répondit que par un regard où se peignait une vive émotion.
« Décidément, se dit Jovita Follet, c'est qu'il est vraiment très bien, ce monsieur Réal, un artiste de talent et plein d'avenir. » Et qu'on ne vienne pas arguer de la position modeste de Lissy Wag. Elle est charmante, charmante et encore charmante. Et elle vaut, certes, les filles des millionnaires qui vont chercher des titres en Europe, sans s'inquiéter de savoir si les princes ont des principautés, les ducs des duchés, si les comtes ne sont pas ruinés et les marquis dans la panne.
C'est ainsi que raisonnait cette judicieuse, quoique trop évaporée, personne. Et, en sa sagesse, elle pensa qu'il ne fallait pas prolonger outre mesure cette situation. Aussi remit-elle sur le tapis la question du départ. Naturellement, Max Réal insista pour que le séjour à Saint-Louis ne prît pas fin avec trop de hâte. Les deux amis pouvaient attendre jusqu'au 18 juin avant de gagner Richmond, et le lendemain n'était que le 13. Et peut-être Lissy Wag, elle aussi, pensa-t-elle que c'était partir un peu tôt. Elle n'en voulait rien dire, cependant, et se rendit au désir de Jovita Follet. Max Réal ne chercha point à se dissimuler le chagrin que lui causait cette séparation. Mais il sentit qu'il ne devait pas insister davantage, et le soir venu, il conduisit les deux voyageuses à la gare. Là, il répéta une dernière fois,
« Tous mes vœux vous accompagnent, Miss Wag. »«
Merci, merci, » répondit la jeune fille qui lui tendit franchement la main.
« Et moi ?» demanda Jovita Follet. « Il n'y a donc pas une bonne parole pour moi ?»«
Si, mademoiselle Follet, » répondit Max Réal, « car vous avez un excellent cœur. Veillez bien sur votre compagne, en attendant notre retour à Chicago. »
Le train se mit en marche et le jeune homme resta sur le quai de la gare jusqu'à ce que les lumières du dernier fourgon eussent disparu dans la nuit.
Ce n'était que trop certain. Il aimait cette douce et gracieuse Lissy Wag, que sa mère adorerait dès qu'il la lui aurait présentée à son retour. D'avoir sa partie très compromise, d'être confiné dans cette métropole avec l'espoir très hypothétique d'une prochaine délivrance, voilà ce qui ne le préoccupait guère. Il rentra à son hôtel, très attristé, et combien il se trouva seul. D'ailleurs, à son tour, grâce à cette déplorable situation de prisonnier, il était abandonné. Il n'avait plus de partisans. Sa cote baissait dans les agences, comme la colonne du baromètre par des vents de sud-ouest, quoi qu'il eût satisfait à l'obligation de payer la triple prime.
Tommy, lui, était désespéré. Son maître n'empocherait pas les millions du match. Il ne pourrait l'acheter,
pour le réduire à la plus cruelle, mais à la plus désirée des servitudes. Eh bien, on a toujours tort de ne pas compter avec le hasard. S'il n'a pas d'habitude, comme cela a été justement observé, du moins a-t-il des caprices, et cette observation se réalisa de rechef dans la matinée du 14. Dès 9 heures, la foule des parieurs assiégeait le bureau du télégraphe de Saint-Louis, afin d'être le plus vite possible informé du nombre de points obtenus ce jour-là par le second partenaire. Le résultat que les suppléments des journaux publièrent immédiatement fut celui-ci. 5 par 3 et 2, Tom Queb. Or, comme Tom Queb, alors en Pennsylvanie, occupait la 47e case, ce point de 5 l'expédiait dans la 52e, Missouri, Saint-Louis, prison. Que l'on juge de l'effet produit par cet inattendu coup de dé. Max Real, qui avait pris la place de Lissy Wag, immédiatement remplacé par Tom Queb, qu'il allait à son tour remplacer en Pennsylvanie. De là, à l'heure même, un bouleversement dans les agences, ce qui fit accourir les courtiers et les reporters à l'hôtel du jeune peintre. Voilà ce qui fit remonter sa cote, ce qui amena ses partisans, devant cette incroyable chance, à le proclamer de nouveau grand favori du match. Mais quelle devait être la fureur de John Milner, à qui décidément rien ne réussissait plus. Tom Queb en prison à Saint-Louis et une triple prime à payer. Décidément, elle se remplissait, la cagnotte hyperbonne, et les dollars s'y multipliaient au profit du second arrivant. Quant à Max Real, il avait le temps de se rendre de Saint-Louis à Richmond entre le 14 et le 22 juin. Aussi ne se pressa-t-il point de partir. Et pourquoi? Parce qu'il voulait connaître le tirage du 20 qui concernait Lissy Wag. Peut-être la jeune fille serait-elle envoyée dans l'un des états voisins, où il lui serait si agréable de s'arrêter pendant quelques jours. Chapitre 12. Sensationnel fait divers pour la Tribune. Harris et Kimball, on s'en souvient, était de sa personne dans le bureau du télégraphe d'Olympia, avant que le midi du 18 juin eût été se perdre dans les oubliettes du passé. Il se trouvait donc à son poste, brisé de fatigue, éreinté moralement et physiquement, et comment s'en étonner après cette merveilleuse performance des cyclistes professionnels Will Stanton et Robert Flock. Tombé presque évanoui sur un banc du post-office, il avait cependant pu répondre « présent » lorsque l'employé avait dit « un télégramme pour Harris et Kimball ». Quelques minutes plus tard, ayant recouvré l'entière possession de lui-même, grâce à un énergique mélange de whisky et de gin, il prit connaissance du télégramme ainsi conçu. « Chicago, 8h13. Kimball, Olympia, Washington. 9 par 5 et 4. » South Dakota, Yankton, Thornbrook. Ainsi donc, le tirage du 18 juin avait été maintenu à cette date, bien qu'il eût pu être avancé de 48 heures, puisqu'il concernait Herman Tidbury. Mais Herman Tidbury était chambré à la Nouvelle-Orléans, où il devait rester pendant le temps réglementaire, et le couple ne cherchait qu'à s'étourdir sur sa propre situation au prix de $200 quotidiens à Excelsior Hotel. Il avait paru logique à Maître Thornbrook et aux membres de l'excentrique club de ne plus modifier les dates de tirage, afin de ne pas diminuer les délais affectés au déplacement des divers partenaires. Et c'était interpréter de juste façon les intentions de William J. Hyperbone. En somme, le chroniqueur en chef de la Tribune aurait eu mauvaise grâce à se plaindre de ce dernier coup de dé. Il n'était pas obligé de revenir dans la partie trop connue du territoire fédéral et il allait traverser une région nouvelle pour lui en se rendant au South Dakota, à moins de 1300 miles de l'État de Washington. En outre, Il faut remarquer que Awist et Kimball, en prenant possession de la 39e case, ne seraient plus devancés que par XKZ, premier au Minnesota, par Max Real, second en Pennsylvanie, par Lissy Wag, troisième en Virginie. Il venait donc au quatrième rang, avant le Commodore Hurricane, qui attendait dans le Wisconsin son prochain départ. Quant à Herman Tidbury, il était cloué pour 28 jours encore en Louisiane. Et Tom Webb se voyait condamné à moisir dans la prison de Saint-Louis jusqu'à la fin du match, si aucun des partenaires ne venait l'y remplacer. Awist et Kimball recouvra donc, on ne dira pas, toute sa confiance dans le succès final, puisqu'il ne l'avait point perdu. Mais il se montra plus emballé que jamais. Ses partisans aussi. Sans doute, trois pierres d'achoppement se rencontraient encore sur sa route. Le labyrinthe du Nebraska, par lequel il avait déjà passé, la prison de Saint-Louis et la vallée de la mort. Il est vrai, de ces trois dangers, un menaçait XKZ, deux menaçaient Lissy Wag et Max Real. D'ailleurs, le hasard jouait un si grand rôle dans ce match hyperbone. Les deux seuls points que le reporter eut à redouter, c'était celui de 12, qui lui eût fait reprendre le chemin du Nebraska, et celui de 10 doublés, qui l'aurait envoyé offrir ses hommages et compliments à Tom Webb dans la prison du Missouri. Cependant, bien qu'il disposât de 15 jours, du 18 juin au 2 juillet, pour se rendre au South Dakota, Awist et Kimball ne voulut pas perdre un jour. Sans attendre cette fois l'itinéraire que le complaisant secrétaire de la tribune, Bruman S. Bicorn, allait lui adresser, sans doute, à Olympia, il le combina lui-même de très satisfaisante façon. Le territoire des South Dakota et North Dakota est séparé de celui du Washington par deux États, l'Idaho et le Montana. Or, à cette époque, le Northern Pacific était livré à la circulation. En traversant le Wisconsin, le Minnesota, le North Dakota, le Montana et l'Idaho, il mettait Chicago et par conséquent New York en communication directe avec la capitale du Washington. D'Olympia à Fargo, sur la frontière est du Dakota septentrional, on compte environ 1300 miles et 400 pour redescendre de Fargo à Yankton, au sud du Dakota méridional, soit une distance totale de 1700 miles. En service ordinaire, il n'est pas rare que les railroads américains parcourent un millier de miles en 32 heures, et il en est de même qui ont fait ce trajet en 24. Mais il fallait compter avec le passage des montagnes rocheuses et admettre la possibilité de forts retards. D'ailleurs, Awist et Kimball auraient tout le loisir de se reposer à Yankton en attendant le tirage du 2 juillet. Ce fut donc par suite d'une sage résolution qu'il se décida à quitter Olympia dès le lendemain. 400 miles environ séparent la capitale du Washington et les premières rampes des montagnes rocheuses, puis 250 de l'ouest à l'est du massif, ce qui donne près de 600 miles entre Olympia et Helena, capitale du Montana. Cette partie septentrionale des États-Unis jusqu'à Chicago était desservie par le Northern Pacific, presque parallèlement au Grand Trunk et à 6 degrés plus au nord. Le reporter ayant 15 jours pour gagner le South Dakota arriverait à Yankton bien avant le télégramme, qui, il n'en doutait pas, le remettrait en bon rang. Dans tous les cas, ce Northern Pacific aurait l'avantage de le conduire à travers l'Idaho, le Montana, le North Dakota, et de valoir à la tribune de curieux articles pour le plus grand agrément de ses lecteurs. Au sortir d'Olympia, après être remonté au nord-est vers Dacoma, le train redescendit au sud-est en franchissant la chaîne des Cascades Mountains par Hot Spring, Clallam, Ellensburg, Toppenish, Pasco, où il traversa la Columbia River. Awist et Kimball, le plus souvent installé sur la passerelle de son wagon, regardait cette merveilleuse contrée, dont les sites se modifient à chaque poteau télégraphique, pourrait-on dire, à travers les gorges profondes où bouillonnent les tumultueux creeks de Cascade Mountains. Et ses regards ne furent pas moins émerveillés lorsque, le mont Stuart laissé dans le nord, le train enjamba la Columbia, qui s'épanche du nord au sud jusqu'au coude qu'elle fait pour aller se jeter dans le Pacifique en formant la frontière méridionale du Washington. La grande rivière est peu navigable en cette partie de son cours, coupée de nombreux rapides, tels ceux de Buckland, Galki, Islands, Priest. Au-delà, la locomotive sillonna le grand désert colombien, à peu près 100 rios, entre Salt Lake et Sitwatla Lake, et que suivent encore les wagon roads, voies fréquentées au temps où les Indiens Nez Percé, Cœur d'Haleine, Puyallup, auxquels il ne reste plus que quelques enclaves, les parcouraient en toute liberté. L'Idaho, qui appartient au bassin de la Columbia, appuyé au nord sur la puissance du Canada, est encore riche de forêts et de pâturages comme il l'était autrefois avant l'exploitation déplacée. Sa capitale, Boise City, sur la rivière de ce nom, est une ville de 2300 âmes, et sa métropole, Idaho City, sur un affluent de la Snake, commande la partie méridionale de ce territoire. Là, les Chinois forment un appoint assez considérable de la population, et aussi les Mormons, auxquels on refuse les droits d'électeurs s'ils ne jurent pas avoir renoncé aux coutumes bigamiques et polygamiques. Au-delà de l'Idaho, dans le Montana, à travers cette indescriptible région des Rocheuses, Awiste Kimball éprouva de nouveaux étonnements. Lui dont les yeux, cependant, auraient dû être blasés par tant de beauté naturelle des Sierras du New Mexico et du Washington. Entre les ravins et les gorges de ce territoire, auxquels les méridiens et les parallèles servent de frontières géodésiques, couraient vers le nord des milliers de rios, de creeks, de rivières, arrosant de verts pâturages favorables à l'élevage du bétail, et qui, avec les mines, sont sa principale richesse, car le climat y est trop rigoureux pour la culture. En dehors du massif des montagnes, il a pour ville principale, que dessert le Northern Pacific, Missoula, Helena, Butler, située dans un centre minier où abondent l'or, l'argent, le cuivre. Après avoir dépassé Charles Fork River, les hauts pics de Wessner et de Stevens, puis Eagle Peaks qui les domine, le Wellwood redescendit vers Helena, la capitale de l'Idaho. On était là en contrée montagneuse, et assurément, il fallait posséder l'audacieux génie des Américains pour avoir établi une voie ferrée en cette région. Le sol est autrement difficile et tourmenté dans la partie septentrionale de ce territoire que dans celle où fut construite la ligne de l'Union Pacific, à 400 milles plus au sud. Aussi, Awiste Kimball, après avoir suivi la seconde, lorsqu'il se rendait d'Omaha à Sacramento, put-il faire la comparaison, tout à l'avantage de la première. Par malheur, le temps n'était pas beau et le ciel menaçait. La tension électrique de l'atmosphère n'avait cessé de s'accroître depuis 24 heures. De lourds nuages orageux se levaient à l'horizon et Awiste Kimball put assister au développement de l'un de ces terribles météores, qui sont grandioses dans les pays de montagne. Cet orage ne tarda pas à prendre des proportions effrayantes. Un de ces blizzards qui bloquent les habitants chez eux. Les voyageurs n'étaient point rassurés, bien que les trains, même en pleine marche, soient généralement peu exposés, le fluide trouvant un écoulement facile par les rails. Toutefois, la fréquence des éclairs qui se succédaient de seconde en seconde, les éclats déchirants du tonnerre, répercutés par les échos en roulements interminables, les coups de foudre frappant les roches et les arbres le long de la voie, des masses détachées roulant en formidables avalanches, Les animaux effarés, buffles, daims, antilopes, ours noirs, fuyant de toutes parts, c'était un incomparable spectacle dont les voyageurs purent jouir dans l'après-midi du vin. Et c'est alors que le chroniqueur de la Tribune eut non seulement l'occasion d'envoyer à son journal une observation des plus inattendues, mais en même temps d'ajouter une singulière découverte qui se rattachait à l'histoire zoologique des Rocheuses. Vers 5 heures, le train remontait lentement un col très raide au plus fort de l'orage. Arwist et Kimball étaient restés sur la passerelle, tandis que ses compagnons demeuraient blottis sur les banquettes du wagon. À ce moment, il aperçut un ours superbe, un grizzly à fourrure noire de haute taille, qui marchait sur ses pieds de derrière en longeant la voie, troublé sans doute par cette lutte des éléments qui impressionne si vivement les animaux. Or, voici que le plantigrade, ébloui d'un vif éclair, lève sa patte droite, la porte à son front, et se signe précipitamment. Un ours qui fait le signe de la croix ? S'écria Arwist et Kimball. Ce n'est pas possible ! J'ai mal vu ! Non, il avait bien vu, et à plusieurs reprises, au milieu des aveuglants éclairs, le grizzly se signait en donnant des marques d'effroi. Puis le train, arrivé au sommet du col, prit une marche plus rapide et laissa l'ours en arrière. Aussitôt le reporter décrire cette note sur son carnet. Grizzly, nouvelle espèce de plantigrade, fait signe de croix pendant les orages, a dénommé pour la faune des Rocheuses Ursus Christianus. Et cette note, elle figura dans la lettre expédiée d'Héléna, le lendemain même, à la rédaction de la Tribune. Après avoir dépassé les stations de Missoula, Bonita, Drummond, Guarison, la locomotive, ayant franchi un long tunnel du massif au-dessous du col de Mulan, vint s'arrêter au quai de la gare d'Héléna dans la matinée du 21. Cette ville, située à une altitude de 1000 toises sur le revers oriental des Rocheuses, au bord d'un torrent tributaire du Missouri, forme un vaste entrepôt pour les produits miniers de la région et compte de 14 à 15 000 habitants. Le train du North Seine Pacific n'y stationna qu'une couple d'heures et n'eut plus qu'à descendre vers les plaines sillonnées par le cours de la Yellowstone et ses nombreux affluents. Cette contrée était jadis fréquentée par les têtes plates, les gros ventres, les pieds noirs, les corbeaux, les cheyennes, les modocs, les assiniboines, maintenant relégués en différentes enclaves, dont le voisinage est mal supporté par la population blanche. Après s'être dirigé au sud-est par Lockhart et Bozeman, le train rencontra la Yellowstone River à Livingstone, puis de nombreuses stations. Laurie, qui jette un tronçon vers le parc national, Howard, Mill City, passa du Montana dans le North Dakota, puis à Beach, sur le 174e degré de longitude. C'est le Dakota septentrional que dessert le North Seine Pacific à la surface d'immenses plaines, un peu relevées dans le voisinage de Hearst Buttles, après le Fort Lincoln. Enfin, il rencontra le Missouri à Edwinton, qui est la capitale de l'État et à laquelle la population allemande donne plus volontiers le nom de Bismarck, cité non moins isolée que le porteur de ce nom abhorré dans sa solitude de Friedrichsruh. Arwist et Kimball auraient pu prendre à la station de Jamestown un embranchement qui descendait directement sur Yankton. Mais, sa fantaisie aidant, il poussa par Valley City, Oriska, Castleton, jusqu'à Fargo, où il arriva le 23 matin sur la frontière occidentale du Minnesota. C'était là, près de la frontière de cet État, que se trouvait alors, après le coup de dé du 10, ce fantastique XKZ, attendant à Saint-Paul, la capitale, que le tirage du 24 l'envoya. À quelle case ? Sans doute bien près du but, si ce n'est au but même. Ce dont, malgré toute sa confiance, enrageait le chroniqueur de la Tribune. Le Dakota, séparé du Minnesota en 1861, est divisé en deux quadrilatères à peu près égaux, l'un au sud de l'autre. Ce territoire de haute altitude, peu montagneux, contraste avec son voisin de l'ouest. La population blanche s'est de préférence portée dans sa partie sud-orientale pour les cultures de tabac, de maïs, d'avoine, de légumes, où le sol est excellent, le nord étant occupé par des lacs et des étangs nombreux. Le Missouri le traverse d'un cours oblique jusqu'au-delà de Yankton, d'où il descend sur Omaha, tandis que la rivière Rouge le sépare à l'est du Minnesota. Le Railroad, qui s'embranche à Fargo, longeait en partie cette rivière, de manière à desservir Yankton, l'ancienne capitale du South Dakota, qui a été remplacée par Pierce City, dont la situation centrale s'accordait mieux avec le plan administratif de la Confédération. Arwish Tekimbal passa à Fargo toute la journée du 23, sans se faire connaître. Peut-être, cédant à ses goûts de touriste, aurait-il visité les quelques bourgades établies sur la rive gauche de la rivière Rouge et leur vis-à-vis de la rive droite, si une circonstance inattendue ne l'eût décidé à modifier ses projets. Tandis qu'il se promenait dans l'après-midi aux environs de la petite ville, il fut accosté par un individu, assurément américain, d'une cinquantaine d'années, de moyenne taille, un nez en vrille, de petits yeux clignotants. Air peu sympathique à tout prendre. « Monsieur, dit cet homme, si je ne me trompe, je vous ai vu ce matin débarquer par le train du Northern Pacific. » « En effet, monsieur, répondit Arwish Tekimbal. « Je m'appelle Orgart, reprit l'individu. « Len Orgart, Len William Orgart. » « Eh bien, monsieur Len William Orgart, que me voulez-vous, s'il vous plaît ?»« Il est probable que vous vous rendez à Yankton ?» demanda le personnage en question. « Tout juste, à Yankton. Alors, permettez-moi de vous offrir mes services. »« Vos services ? Et à quel propos ?»« Une simple question avant tout, monsieur. Vous êtes venu seul ?»« Seul ?» répondit Arwish Tekimbal assez surpris. « Oui, seul. »« Madame ne vous a pas accompagné ?»« Madame ?»« Soit, on s'en passera. Ici, sa présence n'est pas nécessaire pour divorcer. »« Divorcer, monsieur Orgart ?»« Sans doute, et je me charge de toutes les formalités de votre divorce. »« Mais pour divorcer, il faut être marié. Et croyez-le bien, je ne le suis pas. » « Vous n'êtes pas marié et vous allez à Yankton ?» s'écria Len Orgart, qui parut être au comble de la surprise. « Ah, ça, qui êtes-vous donc, monsieur Orgart ?»« Je suis rabatteur et témoin pour divorce. »« Alors, je le regrette, » répondit Arwish Tekimbal, « mais vos services me sont inutiles. » En somme, le reporter ne pouvait être étonné des propositions de l'honorable Len William Orgart. Si, dans l'Illinois, les divorces sont d'usage courant, si l'on peut crier aux voyageurs « Chicago, 10 minutes d'arrêt, le temps de divorcer !» il faut encore que cette rupture du mariage soit entourée de certaines garanties. Or, au South Dakota, il en va tout autrement. C'est par excellence le pays au divorce, et il suffit de faire affirmer par témoin qu'on y est domicilié depuis 6 mois pour bénéficier de ses avantages. De là, ce métier de rabatteur et de témoin à la disposition des hommes de loi. Il recrute le client, il témoigne en sa faveur, il lui fournit un remplaçant s'il ne veut pas venir en personne et préfère opérer par procuration. Enfin, toutes les facilités imaginables. C'est même plus encore à la bourgade de Sioux Falls qu'à la ville de Yankton qu'appartient ce record de démolition matrimoniale. « Eh bien, monsieur, » ajouta très obligeamment monsieur Orgart, « je regrette infiniment que vous ne soyez pas marié. »« Moi aussi, » répondit Aouist et Kimball, puisque j'aurais eu là une si belle occasion de défaire mon mariage.
Mais puisque vous allez à Yankton, ne manquez pas de vous y trouver demain avant 3 heures, afin d'assister au grand meeting qui va s'y tenir.
Un meeting? Et à quel propos?
Il s'agit de demander que les délais de domicile soient réduits à 3 mois, comme dans l'État d'Oklahoma, qui nous fait une fâcheuse concurrence. Ce meeting doit être présidé par l'honorable Monsieur Eldreff.
En vérité, Monsieur Orgart, et qui est-ce, ce Monsieur Eldreff?
Un recommandable commerçant qui a déjà divorcé 17 fois.
Et ce n'est pas fini, dit-on.
Monsieur Orgart, je ne manquerai pas d'être en temps utile à Yankton.
Je vous laisse donc, monsieur, en me mettant à votre disposition pour l'avenir.
C'est entendu, monsieur Orgart, et je tiendrai bonne note d'une offre si obligeante.
On ne sait pas ce qui peut arriver.
Comme vous dites, monsieur Orgart, répondit Harwist et Kimball. Et il prit congé de ce digne témoin doublé d'un rabatteur pour le compte des sollicitors d'Acotia. Restait à savoir si à Yankton, le meeting, présidé par l'honorable Monsieur Eldreff, obtiendrait les commodités inappréciables dont jouissait l'Oklahoma. Enfin, le lendemain 24, à 6 heures du matin, le chroniqueur en chef de la tribune montait dans le train qui se dirigeait vers le South Dakota. Il y a là un assez compliqué réseau de voies ferrées établies d'un état à l'autre. Mais, comme on ne compte que 250 miles entre Fargo et Yankton, Aouist et Kimball étaient assurés d'être là avant l'heure du meeting. Par bonne chance, la dernière section du railroad entre la station de Medary et Sioux Falls City venait d'être achevée, et c'était ce jour même qu'elle allait être livrée à la circulation. Aussi, Aouist et Kimball ne seraient-ils pas dans la nécessité de faire en voiture ou à cheval une partie du trajet, ainsi qu'il y avait été obligé pendant son voyage au New Mexico et en Californie. Il franchit donc la limite conventionnelle qui sépare les deux Dakota, et il était 11 heures lorsque le train s'étant arrêté près de la petite bourgade de Medary sur le bord de la Big Sioux River, il vit tous les passagers en descendre. S'adressant alors à un employé qui était de service sur le quai de la gare.
« Est-ce que le train s'arrête ici ? » questionna-t-il.
« Ici même, » répondit l'employé.
« Mais ce n'est donc pas aujourd'hui qu'on inaugure la section entre Medary et Sioux Falls City ? » ?»«
Non, monsieur. »
« Et quand donc ?»«
Demain. » Cela était de nature à contrarier Aouist et Kimball, car les deux stations sont séparées par une 60 miles, et en prenant une voiture, il arriverait trop tard pour assister au meeting de l'honorable Monsieur Eldreff. Or, précisément, voici qu'il aperçoit, dans la gare de Medary, un train prêt à démarrer dans la direction de Yankton.
« Et ce train ?» demande-t-il.
« Oh, ce train !» répond l'employé d'un ton singulier.
« Est-ce qu'il ne va pas partir ?»«
Si, à 12:30. »«
Pour Yankton ?»
« Oh, Yankton !» réplique l'employé en hochant la tête. Mais, à cet instant, appelé par le chef de gare, cet homme ne put compléter les renseignements que demandaient Aouist et Kimball. Au surplus, ce train n'était point un train de voyageurs, et il ne se composait que de 2 fourgons de bagages, attelés d'une locomotive qui paraissait être en pleine pression.
« Ma foi !» se dit Kimball. « Voilà mon affaire. Puisqu'on inaugure la section que demain, un train de marchandises, peu importe, pour aller de Medary à Sioux Falls City. Si je puis me glisser sans être aperçu dans un des fourgons, je m'expliquerai en débarquant. »
Et le confiant reporter ne mettait pas en doute qu'on reçut, avec la plus parfaite complaisance, les explications que donnerait un des célèbres partenaires du match Hyperbonne, lorsqu'il déclinerait ses noms et qualités, tout en offrant de payer le prix de ce transport non réglementaire. Précisément, ce qui favorisait le projet d'Aouist et Kimball,
c'est que la gare de Médari était déserte en ce moment. Tous les voyageurs semblaient avoir eu hâte de la quitter. Plus un seul employé sur le quai. Seuls le mécanicien et le chauffeur s'occupaient à charger à grands coups de pelle le foyer de la locomotive. Sans être vu, Awiste Kimball put donc pénétrer dans le fourgon, s'y blottir en un coin et attendre le départ. À midi 13, le train démarra avec une brusquerie peu ordinaire. 10 minutes s'écoulèrent, pendant lesquelles la vitesse du train n'avait fait que s'accroître, et elle était excessive alors. Circonstance bizarre, lorsque ce train passait devant les stations, le mécanicien ne sifflait pas. Awiste Kimball se releva et regarda par une petite fenêtre grillagée à l'avant du fourgon. Personne sur la locomotive, qui vomissait des torrents de fumée et de vapeur. Ni chauffeur, ni mécanicien. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se demanda Awiste Kimball. « Est-ce qu'ils seraient tombés tous les deux ? Ou bien cette maudite locomotive s'est-elle échappée de la gare comme un cheval de son écurie ?» Soudain, il poussa un cri de terreur. Sur la même voie, à un demi-quart de mille, apparaissait un autre train qui venait en sens contraire, animé lui aussi d'une vertigineuse vitesse. Quelques secondes après, se produisait une effroyable collision. Les deux locomotives s'étaient télescopées avec une indescriptible violence, brisant les fourgons l'un contre l'autre. Puis, après une formidable explosion, les débris des deux chaudières volèrent à travers l'espace. Et alors, au fracas de l'explosion, se joignirent les hurrahs, les hips de milliers de personnes massées de chaque côté de la voie à une distance suffisante pour n'avoir rien à craindre de la formidable collision. C'étaient des curieux qui s'étaient offert ce palpitant spectacle, organisé à leurs frais, de la rencontre de deux trains lancés à toute vapeur. Spectacle américain, s'il en fut jamais. Et c'est ainsi que fut inaugurée la section du Wellwood entre Médari et Sioux Falls City, l'Éden des divorces en Amérique.